in our lives. We all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow.
RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Et le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. À la une, il y a moins de foyers actifs sur le front des incendies dans le sud-ouest de la France. Une accalmie qui s'annonce très provisoire. Le retour des fortes chaleurs dès demain inquiète des pompiers déjà épuisés. Le gouvernement français est en première ligne face à la question des moyens des services de secours et de l'indemnisation des sinistrés et des entreprises impactées. Le front iranien est calme, pas de frappe américaine pour la troisième nuit consécutive, pause stratégique ou subie. L'administration Trump redoute l'effet de la guerre sur les Américains, appelé aux urnes en novembre. Et puis Olivier Prond dresse le bilan du Tour de France cycliste qui s'est achevé hier à Paris sur un cinquième sacre de Tadej Pogacar. En France, les oppositions interpellent l'exécutif sur la situation dramatique sur le front des incendies, estimant que les moyens des pompiers terrestres et aériens ne sont pas suffisants. Pointons notamment le manque d'avions Canadair disponibles. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, estime qu'il s'agit d'une polémique grossière et que les moyens de lutte contre les incendies ont massivement augmenté ces 10 dernières années. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé des mesures en faveur des sinistrés pour aider les entreprises. Alexis Bédu, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Des milliers d'entreprises ont dû stopper leur activité.
Oui, près de 13 000 entreprises évacuées rien qu'en Gironde. Elles ne peuvent pas mener une activité normale. Roland Lescure, le ministre de l'économie, a donc reçu ce matin à Paris les représentants des opérateurs économiques locaux, l'occasion de leur faire plusieurs annonces, notamment négociées avec les assurances.
En temps normal, on a 5 jours pour déclarer un sinistre à sa compagnie d'assurance. Toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord pour que ce délai soit porté au minimum jusqu'au 31 août. Donc j'allais dire pas de panique, quand vous êtes dans la galère face à un enjeu d'urgence extrêmement importante, vous aurez le temps de déclarer votre sinistre.
Les assureurs prendront en charge les frais de relogement de toutes les personnes déplacées, que leur logement ait été endommagé ou non. Les entreprises de tourisme ont également pris leur part, assure Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises.
Toute l'évacuation qui s'est faite des touristes a été prise en compte par les grands acteurs, les grands opérateurs. On encourage aussi évidemment tous les touristes à ne pas venir maintenant dans les zones concernées. On est sur une saison touristique qui était très bien partie. Évidemment, ça nous touche beaucoup de voir que là, ça va perturber, bien sûr, dans ces zones-là, l'activité touristique.
Il n'y a pas plus d'annonces chiffrées pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, Karine, c'est que la Gironde est un des départements, des 5 départements les plus fréquentés de France pendant les grandes vacances d'été. Après les incendies dans la même zone, il y a 4 ans, la fréquentation touristique avait immédiatement chuté d'environ 40%.
Alexis Bédu, sur le terrain, après plusieurs journées de progression ininterrompue, il y a moins de foyers actifs depuis la nuit dernière, mais le feu n'est pas pour autant fixé. Et cette petite accalmie s'annonce très provisoire, car les prévisions météo inquiètent. Les températures très élevées dès demain pourraient de nouveau nourrir les brasiers, alors que 42 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Des flammes qui se situent désormais à 15 km de l'agglomération de Bordeaux, la grande métropole régionale noyée sous une fumée orange. Les pompiers sont épuisés. Beaucoup ne dorment que 4 heures par nuit depuis près d'une semaine, retournant jour après jour au front face à des feux gigantesques et incontrôlables. La fatigue devient intense et le manque de moyens se fait sentir. Pour Bruno Ménard, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers de France, il faudra tirer les enseignements de cette crise majeure.
C'est la minorité silencieuse qui commence à parler et à dire la même chose que les professionnels. On manque de moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, chiffré, il y a 27 ans, il y avait autant de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qu'il y en a aujourd'hui. Néanmoins, en 27 ans, il y a eu une augmentation de 50% d'intervention, c'est-à-dire qu'on devrait doubler les effectifs. Tous les jours, voire quasiment toutes les heures, j'ai des appels de sapeurs-pompiers volontaires qui me disent « on est sur quelque chose d'exceptionnel, on n'arrive pas à faire face, on est fatigué, on est crevé, on n'en peut plus, on essaye de tenir et c'est dangereux pour nous ». Et nous sommes fin juillet. Les effectifs sont déjà crevés, comme s'ils avaient terminé la saison. Et aujourd'hui, il faut gérer l'urgence. Demain, en septembre 2026, il va falloir se mettre tous autour de la table. Je sais qu'il y a quelque chose de prévu au niveau de l'Élysée. Et se dire vraiment les choses. Qu'est-ce qu'on veut faire demain pour notre sécurité civile ?
Bruno Ménard, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers de France, interrogé par Juliette Pietraszewski. Les habitants ne sont pas autorisés pour le moment à regagner leur domicile dans le sud-ouest de la France, alors qu'en Espagne, certains évacués de la région de Madrid pourront revenir dans leur maison aujourd'hui. Premier signe d'amélioration sur le terrain, les incendies ont ralenti leur progression, même si là aussi le feu n'est toujours pas maîtrisé. Le président ukrainien est à Londres aujourd'hui pour rencontrer le premier ministre Andy Burnham. L'entrevue aura lieu sur une base navale. Volodymyr Zelensky veut conclure avec les Britanniques un accord sur les drones. L'ambition de Kiev est de créer une grande usine pour la fabrication de ces engins sans pilote au Royaume-Uni, direction ensuite les États-Unis pour tenter d'obtenir de Donald Trump davantage de missiles américains Patriot, très efficaces dans l'interception des missiles balistiques russes. Mais les stocks sont limités après des semaines de guerre au Moyen-Orient. Une baisse des stocks qui explique peut-être la pause des frappes américaines en Iran. Thèse du New York Times, notamment, que dément l'administration Trump, affirmant vouloir laisser une chance à la diplomatie. Une accalmie qui pourrait aussi s'expliquer par la perspective des élections de mi-mandat prévues en novembre. 5 mois, quasiment jour pour jour, après le début de la guerre contre l'Iran. Les Américains restent toujours confrontés à des prix de l'essence très élevés, même si les cours du pétrole sont en forte baisse aujourd'hui et pourraient sanctionner le Parti républicain dans les urnes. Reportage de Gwendal Lavina à New York.
Sur cette route très fréquentée, deux stations-service se font face. Les prix sont identiques parmi les moins chers de New York. Le gallon d'essence, presque 4 litres, est vendu à $3,98, $1,30 de plus qu'avant la guerre. Monique garde donc l'œil sur le compteur du prix.
Je suis dégoûtée. Les Américains souffrent vraiment et c'est stressant. Je fais moins souvent le plein et je cherche la station la moins chère. Et puis j'essaye de prendre un peu plus les transports en commun, mais tout le monde ne peut pas le faire.
C'est le cas de Martins, chauffeur de taxi qui fait le plein tous les jours. Depuis le début de la guerre, il gagne jusqu'à $400 de moins chaque mois.
C'est incroyable. Chaque jour, l'essence augmente de 2 ou 3 centimes. Mais le prix de nos courses est encadré, donc on ne peut rien faire. C'est notre salaire qui prend. C'est très dur.
À la pompe d'à côté, Daryl n'est pas très optimiste.
On n'a pas le choix, mais je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Tout ça, c'est de la faute de Trump et on ne sait jamais ce qui nous attend ensuite.
Selon un récent sondage, 46% des Américains déclarent que le prix de l'essence aura des conséquences sur leur vote lors des élections de mi-mandat en novembre. Gwendal Lavin à New York, RFI.
Et dans le détroit d'Ormuz, c'est le statu quo pour le moment. Le blocus continue. Clap de fin hier dimanche à Paris sur les Champs-Élysées en passant par les rues de Montmartre pour le Tour de France cycliste. Dernière étape remportée à l'arraché par le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Un tour sans surprise une fois encore dominé par Tadej Pogacar. Alors que faut-il retenir de cette édition 2026? La réponse avec Olivier Pron.
Retenir que Pogacar est le roi du peloton, bien sûr, intouchable du début à la fin, supérieur en tout à sa main. 5 fois titré désormais comme Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain avant lui. Phénoménal et propre, jusqu'à preuve du contraire. Retenir que Remco Evenepoel, le Belge, fait un sacré beau dauphin, même après de 7 minutes de Poggi et sans Vingegaard qui a chuté à l'entame de la 3e semaine. Constater aussi sur ce tour que la nouvelle génération est là, prête à la bagarre. Le Mexicain Isaac Del Toro, 22 ans, 3e et meilleur jeune, juste devant Paul Sexas, le Français, 4e pour son premier Tour de France. À 19 ans, on n'avait pas vu ça depuis près de 100 ans. Rendez-vous est pris pour l'avenir. Le Lyonnais à l'étoffe. Retenir aussi que 3 Français figurent dans le top 10. Sexas, donc, Martinez, 5e, Jegat, 10e. De quoi faire oublier ou pas que pour la 3e fois de l'histoire du Tour, soit 123 ans, aucun tricolore n'a remporté d'étape. Ne pas oublier que le roi des Alpes et des grimpeurs est Richard Carapaz, l'équatorien. 2 victoires en 3 jours. Se souvenir enfin de la joie des gens sur le bord des routes, des centaines de milliers venus en famille profiter d'un spectacle gratuit. Olivier Pron sur les Champs-Élysées, RFI.
Place désormais au Tour de France, femme qui s'élancera de Suisse dès le week-end prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Karine Bellicha. Prochain journal dans 50 minutes chez 8 milliards de voisins. On parle du corps aussi, mais pas du sport, de la danse classique. À tout de suite.
L'été en podcast, Steven Jumbo.
Chaque été, RFI vous fait entendre à la radio.
Thank you. tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Bien, vous n'avez qu'à porter plainte.
Et sinon, changez. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
I could have been too good. They say the weather's fine. I'd like to hike in canyon. The mountains float quite high. They say the chocolate's sweet. When you're around the Swiss, learn Swahili in Congo and pray they live in bliss.
I could have been to Paris. They say the pastry's nice. Still wanna go to Mumbai with spices so divine. Addis Ababa's where I'll start. Never been colonized. Mbabane really has my heart where peace and rest reside. I know that has changed my life for good. I know that must be true. But what else can I do? Busy searching W some more. Never even opened the door. Oh my gosh, what a bore. I could go out
W,
see what's around.
Tap that W,
sit and give. Changed my life for good.
I know that it's changed my life.
I know that must be true.
I know that must be true.
And what else can I do?
Is
it such a double some more? Never even open the door. Oh my gosh, what a bore.
Tu vas pas te faire avoir si tout le monde lâche son touche-carte.
ça m'horrifie, ça se glorifie. Au bord du gouffre, prêt au sacrifice. Surtout celui des autres, ça m'horrifie. Il faudrait pas abuser, ça suffit. Assez de haine, trop tard pour pacifier. Je veux plastifier